chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « Notre devoir, atteindre toutes les tribus », c'est-à-dire le monde entier, évidemment. Notre étude numéro 2, on pourrait donner comme titre, je pense, l'importance de l'adoration. Chers amis, le but suprême, nous l'avons compris, c'est l'adoration. Pas seulement la mission, bien que la mission est importante, car Dieu est suprême et non pas l'homme. Lorsque cette période de l'histoire arrivera bientôt à sa fin et que d'innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission, elle cessera. La mission est bien entendu une nécessité temporaire, mais l'adoration, en revanche, elle demeure éternellement. Je répète, la mission, elle est nécessaire, mais elle est temporaire. Par contre, l'adoration, en revanche, elle demeure éternellement. L'adoration est donc à la fois le moteur et l'objectif de la mission. Premièrement, l'adoration est l'objectif de la mission. Celle-ci a en effet tout simplement pour but d'amener les nations à savourer un ardent plaisir dans la gloire de Dieu. L'objectif de la mission, c'est l'allégresse des peuples face à la grandeur de Dieu. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Notez Psaume 97, 97. Verset 1. Ô Dieu, est-il dit, que les peuples te disent merci, que les peuples te remercient tous ensemble, que les nations se réjouissent et chantent leur joie. Psaume 67, versets 4 et 5. Deuxièmement, l'adoration est aussi le moteur de la mission. La passion pour Dieu, manifestée dans l'adoration, précède l'annonce de Dieu faite à travers la prédication. On ne peut faire l'éloge de quelqu'un qui n'est pas précieux à nos yeux. Jamais un missionnaire ne s'écriera que la terre soit dans l'allégresse, s'il n'est pas capable de déclarer de tout son cœur « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, et je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. » Psaume 104, verset 34, et le chapitre 9, verset 3. Donc j'ai dit psaume chapitre 104, verset 34, et le chapitre 9, verset 3. Il est très important que vous notiez ces indications bibliques pour les vérifier d'abord. Chers amis, la mission prend donc naissance et elle trouve son aboutissement dans l'adoration. La recherche de la gloire de Dieu doit avoir la primauté sur celle de l'intérêt de l'homme dans les sentiments du cœur et les priorités de l'Église. Dans le cas contraire, l'homme ne sera pas correctement servi et Dieu ne sera pas honoré comme il le mérite. Je ne plaide pas en faveur de la réduction de la place de la mission, mais plutôt pour l'augmentation de la place de Dieu. Lorsque la flamme de l'adoration sera alimentée par la vision juste du seul vrai Dieu, la lumière de la mission se répandra jusque chez les peuples qui vivent dans l'obscurité la plus noire de la terre. Et vivement que ce jour arrive. Si notre amour pour Dieu manque de passion, notre zèle pour la mission manquera lui aussi de vigueur. Voyez-vous, une église qui n'est pas centrée sur l'exaltation de la majesté et de la beauté de Dieu aura du mal à susciter un ardent désir de raconter sa gloire. Oui, je dis bien de raconter sa gloire parmi les nations. Psaume 96, verset 3. Même les gens de l'extérieur perçoivent l'écart entre notre ambition audacieuse de répandre notre message à travers toutes les nations et la fadeur de notre engagement envers Dieu. Chers amis, notre but est donc de frapper les esprits pour bien faire ressortir le reproche selon lequel dans nos cultes d'adoration, Dieu n'apparaît tout simplement pas comme celui qu'il est réellement. En effet, il est involontairement rabaissé. Pour quiconque est stupéfait par la majesté indescriptible de ce que Dieu a créé, sans parler de l'infinie grandeur de celui qui en est l'auteur, le régime qu'on absorbe invariablement le dimanche matin, composé de conseils pratiques, de psychologie réconfortante, de thérapie rationnelle et de stratégie de planification, semble tragiquement déconnecté de la réalité. Il est effectivement possible de détourner son attention de Dieu tout en s'efforçant de le servir. À l'image de Marthe, nous négligeons l'essentiel et ne tardons pas à présenter Dieu sous les traits aussi agités et instables que nous le sommes nous-mêmes. A. W. Tozer, un très grand homme de Dieu, nous a mis en garde contre ce danger. Il dit « De façon générale, nous représentons Dieu comme un père toujours occupé, impatient et légèrement contrarié, s'agitant afin de trouver de l'aide pour mener à bien son plan bienveillant qui est d'apporter au monde la paix et le salut. Trop souvent, les appels missionnaires s'appuient sur cette frustration imaginaire que l'on prête au Dieu Tout-Puissant. Les scientifiques savent très bien que la lumière se propage à une vitesse environ de 9 460 milliards de kilomètres par année. Ils savent aussi que la galaxie dont fait partie notre système solaire fait environ 100 000 années-lumière de diamètre, soit à peu près 950 millions de millions de kilomètres. Or, la portée des télescopes les plus puissants dont nous disposons actuellement, elle a permis d'identifier environ 1 million de galaxies comme la nôtre. Il a été estimé que notre galaxie comptait plus de 200 milliards d'étoiles. Le Soleil est donc l'une d'entre elles, modeste étoile qui brûle à sa surface à une température d'environ 6000 degrés et qui se déplace en décrivant une orbite à une vitesse de 217 km par seconde. Les scientifiques savent bien toutes ces choses-là et elles suscitent en eux un profond sentiment d'admiration. Aussi disent-ils, s'il existe un Dieu personnel, comme l'affirment les chrétiens, qui a créé cet univers par sa parole, alors il devrait transparaître une notion de respect, de révérence, d'émerveillement et d'effroi quand on parle de lui et quand on l'adore. Or, nous qui croyons la Sainte Bible, savons cela mieux que les scientifiques, car nous avons entendu quelque chose d'encore plus extraordinaire. Notez par exemple Ésaïe, chapitre 40, versets 25 à 26, où il est dit « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. » Qui a créé tout cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. J'ai dit Ésaïe 40, versets 25 à 26. Chacune des milliards d'étoiles qui existent dans l'univers y a été placé par la volonté précise de Dieu. Il connaît leur nombre, et il est le plus souvent, le plus incroyable, c'est qu'il les connaît par leur nom. Elles sont donc ses agents personnels et font ce qu'il leur ordonne. Mais quand nous ressentons le poids de toute cette magnificence qui existe dans les cieux, nous n'avons touché que le bord de son vêtement. Tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire. C'est le faible écho qui nous en parvient, est-il dit dans Job chapitre 26, verset 14. Et c'est pourquoi nous écrions « Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Psaume 57, verset 6. Dieu est la réalité absolue à laquelle tout membre de l'univers doit faire face. Tout dépend totalement de sa volonté. Les autres réalités sont toutes aussi éloignées de lui que l'est une goutte de pluie de l'océan. Ne pas tenir compte de Dieu ou le rabaisser, c'est une folie déraisonnable et suicidaire. Comment quelqu'un pourrait-il être l'émissaire de ce grand Dieu s'il n'a pas déjà tremblé devant lui dans un joyeux émerveillement? Oui, chers amis, en matière de mission, il est absolument crucial que Dieu occupe une place centrale dans la vie de l'Église. En effet, comment quelqu'un qui n'est pas émerveillé par la grandeur de Dieu peut-il être envoyé pour annoncer ce message retentissant? Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, est-il dit dans le psaume 96, verset 4. Ce n'est pas la mission, donc, qui est l'essentiel absolu et la priorité absolue, mais c'est Dieu qui l'est vraiment. Et ce ne sont pas là que des mots. Cette vérité, c'est l'âme de l'inspiration et de la persévérance missionnaire. Le fondement de notre passion pour Dieu, c'est la passion qu'il se porte à lui-même. Pour bien faire comprendre cette vérité aux chrétiens et aux églises, Dieu les amène à une prise de conscience assez stupéfiante. Cette vérité, elle est aussi valable pour Dieu lui-même. Même pour lui, le but suprême n'est pas la mission, bien que c'est important, mais c'est surtout l'adoration. Et lorsque cette vérité pénètre vraiment dans notre cœur, ça change absolument tout. Le monde s'en trouve donc souvent complètement renversé et tout prend un autre sens, y compris l'entreprise missionnaire, évidemment. De toutes les vérités que je connaisse, c'est elle qui scelle la conviction que l'adoration est à la fois le moteur et l'objectif de la mission. La passion que Dieu se porte à lui-même, c'est cela qui motive la mission. Et c'est avant tout pour cela que notre passion pour Dieu devrait motiver toute action missionnaire. Si notre engagement missionnaire découle de la joie débordante que nous trouvons en Dieu, c'est parce que la mission découle de la joie débordante qu'il a lui-même à être Dieu. Et si l'adoration est l'objectif de toute action missionnaire, c'est avant tout parce qu'elle est l'objectif de Dieu lui-même. Cela nous est donc confirmé par les nombreux textes bibliques qui présentent Dieu comme recherchant en permanence à être loué au milieu des nations. Il est dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples. » Psaume 117, verset 1. Si tel est l'objectif de Dieu, ce doit être aussi la nôtre. Chers amis, je prétends que la réponse à la première question du catéchisme de Westminster est la même lorsque on la pose à propos de Dieu et à propos de l'homme. Question. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse. Eh bien, le but principal de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir de lui éternellement. Cela revient à dire tout simplement que Dieu est juste. Le contraire de la justice consiste à rechercher et à prendre plaisir à ce qui n'a pas réellement de valeur ou qui n'est pas enrichissant. C'est la raison pour laquelle il est question de l'injustice des hommes en Romains chapitre 1 verset 18. Il est dit « Car ils étouffent la vérité de la valeur de Dieu et là ils la troquent pour des objets créés de leurs mains. » Et ce faisant, ils rabaissent donc Dieu et discréditent sa valeur. La justice, eh bien c'est l'inverse. C'est de reconnaître la vérité à sa juste valeur, c'est de l'apprécier et y prendre plaisir à la hauteur de ce qu'elle vaut réellement. En 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, il est dit « Les injustes périssent parce qu'ils refusent d'aimer la vérité. Les justes sont par conséquent ceux qui accueillent l'amour de la vérité. » La justice, c'est reconnaître, c'est accueillir, aimer et défendre ce qui a réellement de la valeur. Dieu est juste. Cela veut dire qu'il reconnaît, qu'il accueille, aime et défend avec infiniment de jalousie et d'énergie ce qui a infiniment de prix, à savoir la valeur de Dieu. il est tout à fait juste que Dieu se passionne et prenne plaisir à manifester et à faire connaître sa gloire infiniment précieuse. Il ne s'agit pas d'une vague hypothèse théologique, non, non, non. C'est ce qui ressort de façon incontestable de dizaines de textes bibliques qui présentent Dieu comme recherchant inlassablement la louange et l'honneur depuis la création jusqu'à l'aboutissement de son plan parfait. Notez Ésaïe chapitre 48 versets 9 à 11, et sans doute c'est là le texte biblique qui exprime le plus clairement et directement le zèle que Dieu éprouve pour sa propre gloire. Voici ce que Dieu déclare. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi. Et cela pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. Et c'est à cause de moi, oui, à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser désorienter ou déshonorer? Je ne donnerai jamais ma gloire à un autre, jamais. » Ésaïe 48, versets 9 à 11. J'ai découvert que beaucoup de gens reçoivent ces paroles un peu comme si c'était 6 coups de massue. Il est dit, par exemple, « à cause de mon nom, à cause de la louange qui m'est due, à cause de moi, à cause de moi seul, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ce texte martèle la place centrale de Dieu dans ses propres affections. Le cœur qui désire le plus ardemment que Dieu soit glorifié, c'est celui de Dieu lui-même. Le but suprême de Dieu est de faire connaître et de manifester la gloire de son propre nom. Chers amis, voici quelques textes bibliques qui mettent en évidence le zèle avec lequel Dieu défend et manifeste sa propre gloire. Dieu a choisi son peuple pour sa gloire. Notez Éphésiens chapitre 1 versets 4 à 6 et les versets 12 et 14. Là il est dit, « Et lui Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Notez Éphésiens chapitre 1 verset 4 à 6 et les versets 12 et 14 que j'ai déjà mentionnés. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire. Notez Ésaïe 43, versets 6 à 7. Et là il est dit, « Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire. » Ésaïe 43, versets 6 et 7. Dieu a donc secouru Israël en Égypte. Pourquoi? Mais pour sa gloire. Notez le psaume 106, versets 7 et 8. Il est dit, nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux, mais il les a sauvés à cause de son saint nom pour faire connaître sa puissance. J'ai dit psaume 106, versets 7 et 8. Dieu a suscité le Pharaon pour manifester sa puissance et glorifier son saint nom. Notez Romains chapitre 9, verset 17, où il est dit, l'Écriture dit en effet du Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Romains chapitre 9, verset 17. Dieu a vaincu Pharaon à la mer Rouge pour manifester sa gloire. Notez Exode chapitre 14, verset 4 et 18, où il est dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Exode chapitre 14, verset 4, verset 18. Chers amis, voyons maintenant ce qu'il en est dit, ce qu'il en est dit de Jésus. Jésus a recherché la gloire de son Père dans tous ses actes. Notez Saint Jean chapitre 7, verset 18. Il est dit, celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Saint Jean chapitre 7, verset 18. Jésus nous a exhortés à faire le bien afin que la gloire revienne à Dieu. J'ai dit afin que la gloire revienne à Dieu. Saint Matthieu chapitre 5 verset 16 et 1 Pierre, premier épître de Pierre chapitre 2 verset 12. Il est dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Saint Matthieu chapitre 5 verset 16 et premier épître de Pierre chapitre 2 verset 12. Jésus nous a avertis, il nous a avertis qu'il est impossible d'avoir la foi si l'on ne recherche pas la gloire de Dieu. Notez Saint Jean chapitre 5 verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Saint Jean chapitre 5, verset 44. Jésus exauce les prières afin que Dieu soit glorifié. Notez Saint Jean chapitre 14, verset 13, où il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Saint Jean, chapitre 14, verset 13. Jésus a enduré ses dernières heures de souffrance, tout cela pour la gloire de Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 12, verset 27 à 28. Là, il est dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton saint nom. Une voix vient alors du ciel qui dit, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Saint Jean chapitre 12 verset 27 à 28. Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 1, et chapitre 13, verset 31 à 32. Dieu a donné son Fils bien-aimé pour manifester la gloire de sa justice. Notez Romains, chapitre 3, verset 25 à 26, où il est dit, c'est Christ que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Dieu nous a pardonné nos péchés à cause de son saint nom. Notez Ésaïe chapitre 43, verset 25. Là il est dit, pourtant c'est moi, oui c'est moi, qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. C'est à cause de ton saint nom, Éternel, que tu pardonnes ma faute, car elle est grande. Notez Psaume 25, verset 11. Jésus nous accueille et fait de nous ses frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Notez Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Tout cela pour la gloire de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 7. Le ministère du Saint-Esprit consiste donc à glorifier le Fils de Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 16, verset 14. Il révélera. Ma gloire est-il dit ? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Saint Jean chapitre 16 verset 14. Dieu nous demande de tout faire pour sa gloire. Notez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 et le chapitre 6 verset 20. Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai dit 1 Corinthiens 10, verset 31, et vous pouvez ajouter le chapitre 6, verset 20. Dieu nous exhorte à servir d'une façon qui le glorifie. 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Oui, en effet, si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance, et cela au siècle des siècles. Amen. Jésus nous remplit du fruit de justice pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 1 verset 10 à 11. Vous serez donc remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tous les hommes sont sous le coup du jugement de Dieu pour avoir déshonoré la gloire de Dieu. Est-il dit dans Romains, chapitre 1, versets 22 et 23. Ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par les images. Et j'ajoute qu'ils ont fait de leurs propres mains. Romains 1, versets 22 et 23. Tous ont péché, et combien c'est vrai, et tous sont de ce fait privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Jésus va revenir, il va revenir pour la gloire de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Là il est dit, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il reviendra. Ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. Jésus désire surtout que nous contemplions et que nous goûtions sa gloire. Saint Jean chapitre 17, verset 24. Il est dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Oui, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Saint Jean chapitre 17, verset 24. Même quand Dieu est en colère, son but est de faire connaître la richesse de sa gloire. Notez Romains chapitre 9, versets 22 et 23, où il est dit, que dire si Dieu voulant montrer sa gloire, là il est dit plutôt sa colère, et faire connaître sa puissance, il, Dieu, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts pour la perdition. Et que dire? S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Romains chapitre 9, versets 22 et 23. Tout ce qui arrive donc contribue en définitive à la gloire de Dieu. Notez Romains chapitre 11, verset 34. Là il est dit, c'est de lui et c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui donc la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Et encore, dans la nouvelle Jérusalem, eh bien la gloire de Dieu va remplacer le soleil. Apocalypse chapitre 21, verset 23. Il est dit, la ville, elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Apocalypse chapitre 21, verset 23. Chers amis, l'homme n'a pas à cœur de glorifier Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. La méchanceté de notre cœur, c'est ça qui nous porte à faire taire la vérité selon laquelle Dieu est notre maître et qu'il est digne, seul digne, de toute notre fidélité et de toute notre affection. Nous troquons par nature la gloire du Dieu immortel contre les pâles images que l'on trouve dans la création. Romains chapitre 1, versets 18 et 23. Nous abandonnons la source d'eau vive et nous creusons des citernes fissurées qui sont incapables de retenir l'eau. Jérémie chapitre 2, verset 13. Les hommes ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Par nature, nous étions donc tous jadis morts, morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Nous étions esclaves du pouvoir de Satan, et donc nous étions enfants de la colère. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 3. Nous étions donc voués à la peine éternelle, selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 26. Nous étions voués à être loin de la présence du Seigneur. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Et nous étions là à subir un supplice éternel dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et ça, c'est la seconde mort. Die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Et notez le chapitre 14, verset 11. Et encore le chapitre 20. Verset 10, j'ai dit de Apocalypse. Voyez-vous, pour Dieu, la souffrance infinie, elle subit en enfer. Qu'on subit donc en enfer. Cela existe pour mettre puissamment en évidence la valeur infinie de sa gloire. La manière dont la Sainte Bible présente l'enfer comme étant un juste châtiment, cela témoigne clairement du caractère infini du péché dont l'homme se rend coupable en refusant donc de glorifier Dieu. J'ai bien dit en refusant de glorifier Dieu. En ce sens, nous sommes donc tous absolument coupables. Toutes les nations sont coupables. Par conséquent, le poids de la culpabilité infinie, elle pèse sur la tête de chaque homme en raison de notre refus de faire de la gloire de Dieu notre bien le plus précieux. Aussi la Sainte Bible présente-t-elle Dieu comme aspirant profondément et étant absolument déterminé à faire connaître et manifester la gloire de son saint nom. Et elle présente donc l'homme sans la grâce, comme étouffant cette vérité et comme prenant par nature davantage de plaisir à sa propre gloire que à celle de Dieu. Alors que Dieu existe afin d'être adoré, eh bien l'homme adore l'œuvre de ses propres mains, des idoles. C'est cette double réalité qui rend la mission absolument indispensable. C'est cela. Et c'est précisément le fait que Dieu soit centré sur lui-même qui a créé à la fois la crise, mais il a aussi créé la solution. Gloire à Dieu. Chers amis, certes, prendre sa croix, cela implique une transaction spirituelle au terme de laquelle notre vieille nature, c'est-à-dire la chair, meurt avec le Christ pour laisser la place à une nouvelle créature. C'est une des façons dont l'apôtre applique l'appel de Jésus à prendre sa croix. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Christ, ils ont crucifié leur nature propre avec toutes ses passions et avec tous leurs désirs. Galates chapitre 5, verset 24. J'ai donc été crucifié avec Christ, est-il dit ? Et ce n'est plus moi qui vis, est-il dit, mais c'est Christ qui vit maintenant en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, eh bien je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Notez Galates chapitre 2 verset 20. Notre vieil homme a donc été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Attachez-vous donc aux réalités d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Pour autant, eh bien oui, pour autant, la raison d'être de cette mort spirituelle n'est pas de prendre la place d'une application concrète de l'enseignement de Jésus concernant la souffrance et la mort physique. Bien au contraire, elle rend cette application possible. Et c'est précisément parce que notre vieille nature, marquée par l'égoïsme, par le matérialisme, par le manque d'amour, par la crainte et l'orgueil, est morte avec le Christ pour donner naissance à une nouvelle nature qui est tournée vers le ciel, plein de confiance, plein d'amour et d'espoir. Et c'est précisément en raison de cette mort et de cette nouvelle vie intérieure que nous sommes capables de prendre des risques, de supporter la souffrance et même de mourir sans sombrer dans le désespoir, mais en restant remplis d'espoir. Donc, inutile de vouloir avoir un burn-out et de faire de la déprime. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer l'appel à souffrir. Oh non, nous ne devons pas banaliser l'enseignement du Nouveau Testament sur l'affliction et sur la persécution en raison du manque d'aspérité de nos vies. Certes, nous n'avons peut-être pas choisi de vivre l'amour dans toutes les formes radicales auxquelles Dieu nous appelle, et peut-être que notre période de souffrance est juste au coin de la rue, va savoir. Mais ce qui est absolument sûr, c'est que nous ne pouvons pas considérer le message biblique à nos petites vies confortables. Jésus, il est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Saint Marc, chapitre 10, verset 45. Souffrir était donc pour lui une obligation divine. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, est-il dit. Et notez Saint Marc, chapitre 8, verset 31, et Saint Luc, chapitre 17, verset 25. Étant donné que c'était la vocation de Jésus, la souffrance devient également la vocation de ceux qui le suivent. Et c'est ce qui implique ces paroles qui disent « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Saint Jean, chapitre 20, verset 21. D'ailleurs, Jésus l'a dit explicitement, lorsqu'il a déclaré « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Saint Jean chapitre 15, verset 20. « S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. » Saint Matthieu chapitre 10, verset 25. Chers amis, la souffrance de Jésus nous dispense-t-elle vraiment de souffrir? On pourrait aisément commettre une erreur concernant la mort du Christ en tant qu'acte expiatoire de substitution. Cette erreur consisterait à tenir ce raisonnement plutôt superficiel, en disant, puisque le Christ est mort pour moi, je n'ai pas à mourir pour les autres. Puisque le Christ a souffert pour moi, je n'ai pas à souffrir pour les autres. Autrement dit, si sa mort est réellement substitutive, cela ne signifie-t-il pas que j'échappe à ce qu'il a porté pour moi? Comment sa mort peut-elle être un appel à la mienne si elle s'est substituée à ma mort? La réponse est que le Christ est mort pour nous afin de nous éviter d'avoir à mourir à cause du péché et non pas pour nous éviter d'avoir à mourir pour les autres. Puisque le Christ a pris sur lui le châtiment de notre péché, notre mort et notre souffrance ne sont jamais une punition infligée par Dieu. L'appel à souffrir avec le Christ n'est pas un appel à porter nos péchés comme il l'a fait, mais à aimer du même amour que Jésus nous a producté, qui nous a produit la mort du Christ à cause de mon péché d'égoïsme. Cela a pour but non pas de m'aider à échapper à la souffrance de l'amour, mais de la permettre. Ce n'est pas pareil. Puisqu'il a pris sur lui toute ma culpabilité et mon châtiment, me réconciliant ainsi avec Dieu, mon Père, eh bien je ne suis plus condamné à m'accrocher au confort terrestre afin d'être satisfait. Je suis donc libre de tout lâcher s'il le faut afin de faire connaître la valeur suprême de Dieu. L'apôtre Pierre, il montre que la mort du Christ représente à la fois un sacrifice substitutif dont nous pouvons être bénéficiaires et un modèle à suivre. Il s'adresse aux esclaves chrétiens, susceptibles d'être maltraités par leur maître non-croyant. Notez 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21, où il est dit « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, ça, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De ce fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous tous, vous laissant ainsi un exemple afin que vous suivez ses traces. » 1er épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. Notez la petite expression extrêmement importante « pour nous ». Oui, pour nous. Le Christ a souffert pour nous. Pour nous. Pour toi. Voilà donc l'expiation qui a valu de substitution, qui a une valeur de substitution. Il a donc pris Jésus, notre place, et il a fait à notre place ce que nous étions incapables de faire pour nous-mêmes. Lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est une œuvre que seul le Fils de Dieu était vraiment capable d'accomplir pour nous, pour toi. Romains chapitre 8, verset 3. Elle ne peut être ni imitée, ni reproduite. Elle a eu lieu une fois pour toutes. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon-là, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Hébreux chapitre 9, verset 26. C'est donc sur ce fondement-là que repose entièrement notre espoir, notre joie, notre liberté et notre amour. Nos péchés sont donc pardonnés et nous avons la vie éternelle, selon Saint Jean chapitre 3, verset 16 et Éphésiens chapitre 1, verset 7. Dieu est pour nous et rien ne peut nous séparer de lui. Romains chapitre 8, verset 31, 35 à 39. Par conséquent, en écrivant que Jésus vous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces, l'apôtre Pierre ne voulait pas dire que nous sommes appelés à faire acte d'expiation pour le péché. Il voulait simplement dire que nous sommes appelés à aimer comme Jésus l'a fait et à être prêts à souffrir comme lui en raison du bien que nous accomplirons. Le modèle à reproduire n'est pas l'expiation, mais l'amour et la souffrance. Le rapport entre les deux est donc crucial. C'est la substitution qui est le fondement de notre imitation et non pas l'inverse. Nous ne gagnons pas notre pardon en souffrant comme Jésus l'a fait. Nous sommes libérés pour aimer comme Jésus l'a fait, parce que, tout simplement, nos péchés sont pardonnés. Et c'est parce qu'il a souffert pour nous que nous pouvons souffrir comme lui. L'apôtre Pierre dit, en fait, c'est à cela, ce chemin de souffrance, qui vous avez été appelé. Que vous avez été appelé. C'est donc notre vocation. Ne commettez jamais l'erreur de dire « Ah oui, mais ces paroles s'adressaient aux esclaves qui avaient un maître cruel. Elles ne s'appliquent donc pas à nous. » Ça, c'est une erreur. Car une autre épître qui s'adresse à tous les croyants insiste néanmoins sur le même point. Il est dit « Afin, enfin, ayez toutes les mêmes pensées et les mêmes sentiments et soyez pleins d'amour fraternel, soyez pleins de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » 1er épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Il ne s'agit donc pas seulement de la vocation des esclaves, mais de tous les chrétiens. En raison de la façon dont le Christ a vécu, dont il a souffert et dont il est mort, nous sommes donc appelés à manifester son amour suprême par notre existence en vivant de la même manière. C'est donc ainsi que l'apôtre Pierre poursuit en décrivant la façon dont Jésus réagit face à la souffrance injuste. Et nous sommes donc appelés à prendre exemple sur lui, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Oui, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui uniquement qui juge justement. 1er épître de Pierre, chapitre 2, versets 22 et 23. Plus loin, pour s'assurer que le sens de cet appel soit bien clair, l'apôtre Pierre écrit « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. » 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 1. La souffrance du Christ appelle donc le chrétien à avoir une certaine conception de la souffrance, à savoir qu'elle est normale et qu'elle est souvent nécessaire et qu'elle nécessite par la voie de l'amour et de l'engagement missionnaire. Et c'est donc ainsi que l'apôtre Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Il n'y a donc rien d'étrange à souffrir avec le Christ. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est donc votre vocation. Les mêmes souffrances sont donc imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 9. Voilà donc la pensée qu'il nous faut revêtir, telle une armure. Sans quoi? Eh bien, sans quoi nous risquons d'être vulnérables à la souffrance, comme s'il s'agissait de quelque chose d'étrange, de terrible, d'insupportable et d'injuste. Amen. Chers amis, maintenant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien ça. Il nous faut rapporter tout à Dieu comme à notre dernière fin. Dieu nous dit, je dois être votre fin suprême et dernière si véritablement vous désirez être heureux. Cette vue purifiera vos affections qui s'abaissent trop souvent jusqu'à vous et aux créatures. Car si vous recherchez en quelque chose, aussitôt vous tombez dans la langueur et la sécheresse. Rapportez donc principalement tout à lui, votre Père, parce que c'est Dieu qui vous a tout donné. Considérez donc chaque bien comme découlant du souverain bien et songez que c'est l'or. Ils doivent tous remonter à Dieu comme à leur origine, en Dieu le Père, comme dans une source intarissable, eh bien le petit et le grand, le pauvre et le riche, puisent donc l'eau vive, et ceux qui le servent volontairement et de cœur, ils recevront la grâce sur grâce. Mais celui qui cherchera sa propre gloire hors de notre Père céleste ou sa jouissance dans un autre bien que lui n'aura pas une joie vraie ni une solide et son cœur toujours à la gêne, toujours à l'étroit, ne trouvera que des vaines angoisses. Ne vous attribuez donc aucun bien, et n'attribuez à nul homme sa vertu, mais rendez tout à Dieu, sans que l'homme n'a rien. En effet, sans Dieu nous avons rien. C'est à lui, votre Père, qui vous a tout donné, et il veut que vous vous donniez à lui tout entier. Il exige avec une extrême rigueur les actions de grâce qui lui sont dues. Et ceci est la vérité qui dissipe la vanité de la gloire. Là où pénètre la grâce céleste, se trouve la véritable charité. Il y a plus de place pour l'amour propre. Il n'y en a plus du tout pour l'amour propre, ni pour l'envie qui torture le cœur. Car voyez-vous, l'amour divin subjugue tout et agrandit toutes les forces de l'âme. Si vous écoutez donc la sagesse, vous ne vous réjouirez que en lui, vous n'espérerez que en lui, parce que nul n'est bon que Dieu seul, à qui en tout et par-dessus tout est dû à jamais la louange et la bénédiction. Amen. Et maintenant, prions ensemble tout simplement. Prions. Seigneur Dieu, roi de gloire, tu as créé ton éternel royaume qui est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Illumine nos cœurs pour nous préserver de méconnaître comme le fait le monde incrédule et de rejeter ton Christ. Qu'avec les yeux de la foi, nous sachions saluer en lui le roi véritable et prédestiné de ton royaume. Rends-nous constants dans la fidélité et dans l'espérance pour être prêts lorsque apparaîtra ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Béni soit celui qui vient pour délivrer l'Église, pour délivrer les chrétiens et le monde. Béni soit celui qui vient dans Jérusalem pour y mourir, celui qui renonce à lui-même, qui souffre, qui meurt pour venir jusqu'à nous. Béni soit donc le roi humble et débonnaire, monté sur un ânon. Hosanna ! Aie pitié, oui, délivre-nous, règne en nous, libérons. Oui, règne en nous, libérons, oui, oui, sauve, sauve-nous, nous t'en prions. Ne nous sauve pas seulement de la condamnation, de la peur de mourir et de la peur de vivre, mais sauve-nous du péché, de l'égoïsme, sauve-nous de tout nous-mêmes, de nos péchés actifs et de nos péchés passifs, de notre faiblesse, aussi bien que de nos lâchetés, de nos inerties, de notre moellesse et de nos stériles lamentations. Sauve-nous vraiment en esprit, c'est-à-dire en vérité. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous mettre quelques chants d'un très lointain passé. Mais évidemment, c'est pas facile, car il y a très longtemps, 1962. Mais avant cela, souvenez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime tous, tels que vous êtes, pour autant que vous avez reconnu que vous êtes pécheurs et que vous avez accepté sa main tendue. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, essayons de voir si ça fonctionne.
Thank you. home.